Mardi 15 novembre 2011, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous tout au long de l'émission et je suis accompagnée, comme à l'habitude, par Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, quand même une émission, à ma foi, assez chargée, comme à chaque semaine. On aime que ça bouge, on aime le rythme, on aime rencontrer des gens. Et on rencontre notamment Sébastien Hudon, directeur artistique de la bande vidéo qui viendra nous présenter l'exposition de la New-Yorkaise Case Tale. Cars Cone, donc une projection vidéo sur de la peinture sur un miroir avec des reflets un peu partout dans la galerie. Donc, assez particulier. Catherine Boivin, notre chroniqueuse cette semaine, vient de faire une belle... J'appelle ça une tournée des magazines. Peut-être ce sera-t-elle penchée sur un article précisément dans un magazine d'art. La surprise est là. On attend impatiemment. On rencontre aussi Emmanuel Galland, qui est commissaire de l'exposition « Peut mieux faire à l'œil de poisson dans le vernissage » aura lieu ce vendredi. Exposition où M. Galland a confié des cahiers Canada à des artistes et leur a dit « Faites ce que vous voulez ». Donc, ça risque d'être fort intéressant. Également, Raymond Poirier fait sa revue de presse. Bonjour, Raymond.
Bonjour, Julie.
Peux-tu nous tendre une carotte? Tu sais comment j'aime les carottes.
Coup d'éclat de Doyon de Mers au Grand Théâtre de Québec. Ça a beaucoup fait jaser. On revient là-dessus tout à l'heure.
Et également, on discute avec Simon Roy qui nous fait sa proposition en art audio cette semaine. Bonjour, Simon.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Ben oui, toujours.
Tu nous proposes cette semaine la Galerie Stratique.
Ben oui, c'est le pseudonyme d'un artiste du nom de Charles-Émile Belac. Un album qui m'a accroché un gros sourire d'en face, un album assez spécial. Galerie Stratique, c'est d'expérimenter avec un orgue différent. Donc, il a joué sur l'orgue. Il a fait quelques collages avec ça. Donc, c'est comme remixé avec toutes sortes de, montage sonore. Donc, la base, c'est l'orgue. Je trouvais ça assez drôle. Dans la description de l'album, on disait que ça évoquait un futur imaginé par nos grands-parents. C'est vraiment ça.
Ouais, un peu un futur qui vieillit mal à la Kubrick.
Ouais, c'est ça exactement. Quand je l'écoute, je m'imagine dans une espèce de salon, dans un sous-sol avec du tapis. C'est assez décalé comme album. Ça m'a vraiment fait rire. C'est assez doux pour l'oreille. Des fois, en art audio, ça peut être assez demandant pour les oreilles. Puis ça, c'est un album tout à fait relaxant. Donc, j'ai bien aimé le sens de l'humour, en tout cas, de ce qui se dégage de l'album.
Oui, on sent que l'artiste a vraiment du plaisir là, à faire son travail.
Oui, c'est sûr qu'il faut le réécouter quelques fois pour voir les subtilités. C'est quand même assez répétitif par moment, mais c'est ça, c'est un album vraiment à découvrir, peut-être avec des écouteurs pour vraiment entendre toutes les subtilités.
Excellent.
Et donc, c'est publié sur NoType. On va débuter avec la pièce Point d'orgue 7. Ça va être suivi par la pièce, j'adore le nom, la pièce s'appelle Niaiserie.
Ouais, c'est quand même surprenant comme nom de pièce. Ça montre vraiment que ça se prend pas au sérieux.
Non, c'est ça, pas du tout. Puis la pièce suivante, c'est Hip Orgue. Donc, un petit peu de hip-hop, mais joué sur l'orgue. Puis, on a la pièce Point d'orgue 3. Puis, j'ai un petit temps aussi, si on a le temps, la pièce Point d'orgue 5.
Ben, Simon, merci beaucoup.
Ben, ça fait toujours plaisir. Puis, c'est ça, amusez-vous de l'album. Moi, j'ai vraiment apprécié.
Oui, on peut le télécharger gratuitement aussi sur le site de l'étiquette NoType.
Oui, exactement.
Puis toutes les informations seront sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Simon, on t'entend dimanche soir à Web Music.
Oui, comme toujours.
Excellent. Ben, bonne semaine à toi.
Merci, vous autres aussi.
Et on s'en va en pause audio. On écoute Point d'orgue 7 sur les ondes de CKRL. Thank you. On vient d'entendre un extrait de la pièce Point d'orgue 7, c'est tiré de l'album Point d'orgue, donc du même nom, son numéro, de Galerie Stratique. Vous pouvez, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, trouver les informations sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, vous pouvez écouter l'émission en balado-diffusion, l'enregistrer, en faire une collection. Bref, toutes sortes de choses à voir sur ce magnifique site Internet. Également, on pourrait y retrouver les liens pour la revue de presse que Raymond Poirier s'apprête à nous faire.
Et je disais tout à l'heure, enfin, on commence avec un sujet qui a été fortement médiatisé. Il faut dire que ça a quoi quand même intrigué. Je sais pas si les auditeurs auditrices sont passés dans le coin du Grand Théâtre de Québec hier ou aujourd'hui. Sinon, ben, je vous invite à le faire dans les prochains jours. C'est assez impressionnant. En fait, c'est le duo bien connu Doyon de Mers qui a essentiellement fait un immense graffiti. Donc, ils ont écrit sur un des murs de côté du Grand Théâtre Liberté avec un point d'exclamation. Bien entendu, en fait, on ne parle pas ici du Liberté qui a été scandé en France. Oui, avec le A. En fait, il y aurait eu un A si ça avait été celui-là. Ici, c'est plutôt une référence à la murale de Jordi Bonnet. Donc oui, il y a le « Vous n'êtes pas tanné de mourir en bande de cave », mais il y a aussi à quelque part dans la murale un « Liberté », point d'exclamation. Donc c'est la référence. Il faut dire que ce coup d'éclat-là, allons-y avec ce terme-là, s'inscrit dans les 40 ans du Grand Théâtre de Québec. Et je te lis quelques extraits d'entrevues dans Le Soleil qui ont été offerts par le duo. Ils disent de leur œuvre, j'ouvre les guillemets, on dirait un graffiti fait rapidement avec une canette d'aérosol géante. C'est à quelque chose d'absurde, de surdimensionné, de surréaliste. On aime bien brouiller les pistes, surprendre les gens et casser leur routine visuelle. Et comme artiste, faire un geste brutal sur une aussi belle pièce d'architecture, c'est génial. Il faut dire aussi que ça s'inscrit un peu dans leur démarche, donc de jouer un peu avec les codes publicitaires. Et ben ici, on joue aussi avec les codes du graffiti à certains égards.
Mais c'est intéressant quand même parce que le Grand Théâtre, bon, ça a énormément choqué aussi là, la morale de Jordi Bonnet quand le Grand Théâtre a ouvert, mais c'est aujourd'hui un lieu de culture plus institutionnalisé. C'est l'opéra, c'est les ballets, l'orchestre symphonique, le trident. Donc c'est vraiment la culture institutionnelle qui met un gros graffiti. Ça vient, je trouve que ça vient jouer sur l'image qu'on peut se faire du Grand Théâtre.
Non, un beau projet. Et pour ceux qui se disent, ben, est-ce que c'est écologique? Oui. La peinture qui est utilisée pour écrire liberté, point d'exclamation, est écologique.
Ah,
aussi.
Ben voilà, donc, c'est voilà. D'autant mieux.
On reste au Québec. Deuxième nouvelle, le lauréat du prix Émile Bordua 2011 a été annoncé. Il a été remis à un sculpteur influent dans le milieu des arts visuels au Québec, Gilles Mial-Séan. Donc, assez connu quand même, dans la mesure où il y avait le SIAC notamment qui lui avait offert une exposition individuelle d'envergure en 92, en 95. Il y avait eu aussi une exposition sur lui au Musée d'art contemporain. 10 ans plus tard, donc, il est le deuxième récipiendaire de la bourse Jean-Paul Riopel. Mial-Séan qui a marqué de sa griffe l'espace public par quelques œuvres, dont un monument à la pointe en 2001, Dalette en 2010. Également, il se consacre à des petits formats. Alors, un artiste qui a pas nécessairement beaucoup moussé sa publicité, donc le nom peut peut-être soulever quelques points d'interrogation à certains. Et par contre, on nous assure que donc c'est un artiste qui a été important, là, qui a produit beaucoup au cours des 40 dernières années, une œuvre unique, originale, reconnue autant par la critique que par les conservateurs de musique, que par ses pairs également. Et parallèlement, Gilles Mial-Séan qui s'est aussi engagé à la défense du rôle des artistes dans la société. Alors ben voilà, il y a un beau portrait d'ailleurs qui a été publié dans Le Devoir, on mettra le lien sur le blog de l'aérospatiale dans la section revue de presse. Et par ailleurs, je vous invite aussi à aller faire un tour sur le blog doublement cette semaine parce que il y a de ces articles sur lesquels on tombe et je dis c'est toi qui as attiré mes yeux sur celui-là et je pourrais vous en parler longuement, mais il faut aller le voir visuellement. C'est en fait Rue 89 qui offre une espèce de petite rétrospective de quelques œuvres qui ont été inspiré par la crise et par tout ce mouvement Occupons Québec, Wall Street et le reste. Et beaucoup d'artistes liés au street art qui s'y sont intéressés, ça a largement inspiré donc ces gens. On pense par exemple à Shepard Fairey à New York, celui qui avait fait l'affiche Hope de Barack Obama, qui a repris un peu son affiche pour faire des invitations à aller occuper Wall Street. Il y a également Above à San Francisco qui, lui, a fait une murale intitulée « Give a Wall Street Banker enough rope and he will hang himself ». Donc, donnez-lui assez de cordes, il va se pendre. En Grèce aussi, Bleep qui a peint une série de portraits, donc des migrants de Mestropie, etc. Donc, des gens qui disent « J'attendais l'amour, maintenant j'attends un client ». Banksy à Londres avec ses récupérations de la figure de Monopoly. Il y en a eu en Italie, donc un peu partout. Et cet article-là montre bien la richesse de cette inspiration-là pour ces mouvements artistiques. Ce sera intéressant de voir aussi si ces réflexions-là iront au-delà du street art. Pour l'instant, le mouvement occupe les rues, donc l'art aussi qui occupe les rues s'y intéresse. On verra si ça passera à d'autres médiums.
Dossier à suivre.
Dossier à suivre. Et parlant d'occupants Wall Street, eh ben il faut dire que les ventes de Sotheby's d'automne se sont faites devant quelques centaines de manifestants autour justement de ces protestations liées au milieu de l'art dont on avait parlé au début de la saison. Et parallèlement, ça n'a pas eu d'influence négative sur les prix de vente, bien au contraire, en fait, encore des records battus malgré la crise. Ouais. Toujours surprenant. Sotheby's notamment a fait une toile du peintre américain Clifford Still s'est arraché pour plus de 60 millions de dollars. Il y en a eu d'autres aussi qui sont vendus au-dessus de 30 millions, plusieurs ventes au-dessus de 20 millions. Globalement, on dit qu'on a fait 315,8 millions de dollars de ventes, le meilleur résultat depuis mai 2008. Alors, des ventes records essentiellement pour l'art contemporain new-yorkais. Et enfin, peut-être un dernier clin d'œil, je vous avais parlé des quelques semaines d'Ai Weiwei, artiste chinois qui avait été nommé par un magazine d'art, donc personnalité artistique la plus influente.
Oui, oui, oui.
Ça lui a causé quelques problèmes en Chine, c'est-à-dire qu'il se positionne très nettement contre le régime. Et le régime a décidé de trouver une autre excuse que tu parles contre nous pour l'emprisonner. Et donc, ils ont décidé de l'accuser de fraude fiscale. Ils lui ont dit notamment qu'il fallait qu'il réunisse une somme de plusieurs millions de yuan, donc pratiquement un peu plus d'un million de dollars canadiens, pour éviter la prison et les accusations pour fraude. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mouvement international qui s'est fait de dons et d'appui, et l'artiste a réussi à accumuler de la somme qui avait été demandée par le gouvernement chinois.
Oups.
Alors, la réaction du gouvernement chinois, c'est de dire, finalement, on a changé d'idée, ça marche plus. La proposition qu'on t'a faite. Alors, ce serait intéressant de suivre.
En prison quand même.
Peut-être. C'est vraiment, et c'est ça, je le mets en haut de la pile de dossiers à suivre, parce c'est une situation qui qu'on suit depuis plusieurs mois même.
Ben
en fait, ces problématiques avec le régime là-bas remontent à loin. Et comment va-t-il s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le dernier chapitre cette semaine, il y en aura probablement un dans les semaines à venir.
Bien, on le suit, puis on attend même des nouvelles avec impatience, en espérant que ce soit pour le mieux.
On l'espère, on croise les doigts.
D'ici là, Raymond, on peut t'écouter sur les ondes de CKRL. T'animes La Vie en PD.
Vendredi, dès 17h30.
Merci à toi. Passe une belle semaine. On s'en va en pause audio. On écoute Niaiserie. Au retour, on discute avec Emmanuel Galland.
Thank you.
On vient d'entendre, finalement, on n'a pas entendu un extrait, on l'a entendu au complet. La pièce s'appelle Niaiserie. Ceci dit, c'est une pièce quand même très intéressante à écouter de Galerie Stratique. C'est tiré de Point d'orgue, une suggestion de notre collaborateur Simon Roy. Cette semaine, on est vraiment dans une semaine de transition dans le monde des arts visuels. Il y a quelques centres d'artistes dont les expositions sont terminées. Une série de vernissages qui auront lieu vendredi, dont celui de l'exposition « Peut mieux faire à l'œil de poisson » dont le commissariat est effectué par Emmanuel Galland. Donc, pour en parler, on le rencontre. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui.
Tu dois être dans le jus, hein?
Ça oui, je ne sais pas si le titre de la chanson, c'était un message pour moi, pour le projet « Peut mieux faire », niaiserie.
Moi, ça, je ne sais pas. C'est pas ma sélection musicale du collaborateur.
Le titre au complet, c'est « Peut mieux faire », le sous-titre « Cahier d'exercice ». Ça indique juste qu'on a travaillé avec les fameux cahiers canadiens, les cahiers canadiens Ilroy, de Marc Ilroy, qu'à peu près tout jeune et moins jeune Canadien a dû utiliser.
Ben oui. Hein?
On l'a normé, on a normalisé les gens au travers de ces cahiers canadiens dont la couverture soit verte, jaune, rose ou bleue comportait la carte du Canada et en grosse écriture le mot Canada. C'est ça le point de départ.
Et c'est une exposition, en fait, c'est pas la même, le projet a eu lieu à Montréal
c'est ça,
en 2009.
Exactement, la première formule de l'exposition, c'était avec le même titre, donc ça a été vraiment produit pour la première fois à l'Atelier Ponte, qui était une galerie indépendante en design, architecture et art visuel, ce qui était assez innovateur à Montréal, et donc à l'automne 2009, avec 35 artistes. Et là, on double presque le nombre de participants pour
une soixantaine,
autant en vidéo. C'est transdisciplinaire et transgénérationnel. Moi, j'aime bien les trans.
C'est bon. Et qu'est-ce que, parce que là, bon, la contrainte ou le point de départ, c'est le cahier Canada.
C'est un alibi, c'est-à-dire qu'on aurait pu offrir une toile, tu sais, à des artistes et comme pour le projet, la première version en 2009, l'idée c'était aussi de convier des artistes, des créateurs, des designers, donc des gens de différentes provenances, pas uniquement les arts visuels. Et je suis très heureux que l'œil de poisson, qui est un centre d'artistes en art actuel, mais donc plus orienté art visuel, l'ait accepté puis le reçoive en grand, puisqu'on va occuper toutes les salles, y compris le corridor, l'accueil, la petite galerie, la grande galerie. Donc faut garder des surprises un peu là, et même des trouées dans les murs. On est en plein montage actuellement. Hein, c'est dans deux jours le vernissage.
Ça devait être assez complexe à tout organiser ça, parce que j'imagine pas que les artistes se sont tous contentés de remplir le cahier canadien.
Non, c'est ça. Moi, je jouais, alors vous savez, quand on dit commissaire, les gens ne savent pas trop c'est quoi un commissaire, les gens qui ne sont pas dans le milieu de l'art contemporain, puis c'est pas grave, ils ne le sachent pas. Alors ils pensent commissaire de police. Mais là, je disais, je ne veux pas non plus être un recteur d'académie, parce qu'on parle des fois d'académie des beaux-arts, on a parlé dans le temps. Je ne veux pas être un recteur non plus, je ne veux pas être dans la rectitude. Au contraire, c'est de dire, si on regarde dans ces cahiers-là, à l'intérieur, on a les petites lignes bleues, puis la petite ligne rose-rouge. Hein, c'est mal imprimé, le papier est cheap, on se souvient tous de ça.
Qu'est-ce qu'on a fait? De poinçons pour
Exactement. Et là, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On faisait des gribouillages, on faisait des petits dessins, ou en dehors de la prise de notes, là, des leçons, etc. Donc moi, en fin de compte, ma métaphore, c'est de dire, sortez de la marge. On sort, et puis on s'approprie, et on peut même aller jusqu'à se venger de ces cahiers-là ou de ce souvenir souvenir là, d'enfance, le détruire. Alors, j'ai un artiste comme Patrick Bernatchez qui avait déjà eu un solo à l'œil de poisson il y a quelques années. Il est en ce moment en solo à la Galerie de Lucam à Montréal avec un gros solo. Lui, il a brûlé son cahier. Et les cendres, il les a étalées sur une vitre, plus une autre vitre. Donc, ça donne un panneau du format d'un cahier. Ça se tient, mais là, c'est brûlé, totalement brûlé. Il y en a qui l'ont déchiré, il y en a qui l'ont... Bon, alors, comme vous disiez tantôt, ça peut rester un cahier manipulable. Hein. On va avoir une grande table qui va faire 24 pieds de long, avec autant de chaises, 24 chaises. Et là, les gens vont pouvoir consulter. L'idée, c'est de faire plutôt qu'une galerie. L'idée d'une galerie, c'est de la visite comme une salle de lecture.
Mais ouais.
Hein, bibliothèque, un peu. C'est une inspiration, c'est pas du mimétisme. Et puis autour de ça, comme vous disiez, bah, j'ai en périphérie de cette grande table qui coupe la salle, la grande galerie de l'œil de poisson en deux, et ben on a installation, collage, photo, sculpture, etc., etc.
Mais ça doit être intéressant quand même parce que peu importe la discipline dans laquelle on travaille, le Cahier Canada n'est jamais un support qu'on va utiliser. Donc pour tous les artistes aussi, ça peut être déstabilisant là, de taper à avoir un support tel que celui-là.
Peut-être certains se sont tiraillés les cheveux, etc. Moi, j'ai dit à tout le monde, c'est une carte blanche, mais contrôlée. Alors, je fais le semi-commissaire. Moi, de toute façon, je suis artiste-commissaire. Je travaille comme artiste aussi, donc je suis artiste-commissaire. Donc, dans ce sens-là. Et je suis aussi un retardataire, ou j'ai été un retardataire. Donc, j'ai eu des retardataires parmi tous les artistes. Il y en a 60, une soixantaine au final, mais il y en a peut-être eu 80 ou 100 d'invités.
Hein.
Donc, on y en a une soixantaine, mais j'aurais dit... Moi, je veux pas de stress. C'est pas une commande, c'est pas un exercice. C'est un exercice de style, mettons, mais c'est un exercice d'ouverture et non pas oublier les contraintes. Et puis même, j'ai suggéré à certains, je sais pas si on va se comprendre, mais oser sortir de votre démarche artistique habituelle.
Ouais.
Allez-y,
c'est,
là. Aussi, hein, c'est ça que ça prend. Là. On sort des lignes, on sort du cadre. Donc, si on a tous, hein, nos créateurs ou visiteurs d'expo, on a des idées, des fantasmes, des dessins, qu'on ne peut pas se permettre parce qu'on nous reconnaît comme étant monsieur un tel et telle démarche, etc.
Et c'est toujours les étiquettes.
Oui, les catégories, etc. Et ce qui est important aussi, hein, il faut catégoriser en art aussi. Quand on crée du sens, il faut bien catégoriser aussi. Mais là, c'est de dire, ben non, osez aussi sortir de votre démarche. Là, un projet fou que tu avais sur le côté, mais on ne va pas reconnaître tel nom ou tel autre. Mais les résultats sont fabuleux. Moi, j'ai reçu les projets, j'en reçois encore. Et puis, ce sont des beaux cadeaux. Là.
Est-ce qu'il y en a, justement, qui vous frappent un peu plus, qui, je dis vous, tu, je tutoie et vous voir le bas, là, mais qu'est-ce
vous êtes parti sur le vous, mais on peut aller sur le tu.
Ben oui, on peut bien.
Ben oui,
des projets
allons-y.
Plus...
oui, ben là, j'ai la liste des artistes, c'est difficile là, sur les 60. On a, par exemple, Frédéric Caplette. Lui, il a une formation d'architecte, puis il enseigne à l'Université de Montréal aussi comme architecte, puis il travaille chez Cénoplus à Montréal. Cénoplus, c'est connu parce qu'ils construisent partout dans le monde des grosses salles de concerts, entre autres le Cirque du Soleil, aussi des salles. Bon. Mais lui, donc, il n'a pas sa pratique personnelle, mais je connaissais Frédéric Caplette comme ayant quelqu'un qui a du talent, beaucoup de talent avant, mais il ne pouvait pas nécessairement l'exprimer. Je dis, bah, tiens, je t'offre cette possibilité-là, vas-y, est-ce que ça tente à temps perdu ou quoi? Et lui, c'est quelqu'un qu'on connaît parce que vous connaissez, tu connais Pascal Grandmaison, un artiste en photo et vidéo.
Oui.
Et il a déjà joué dans les vidéos de Pascal Grandmaison, donc on le connaît par ce biais-là. Il est donc intéressé aussi par l'art actuel. Puis lui, il a réalisé une sculpture comme un livre ouvert, posé sur une tablette. Et à l'intérieur, c'est des flammes, mais des flammes pleines, le tout en bois sculpté. C'est blanc. Alors, je vous en parle de façon abstraite, comme ça, vous n'avez plus le choix que de passer par l'œil de poisson.
Ça pique la curiosité.
Pour le vernissage vendredi, ou à vendredi le 18, ou d'ici le 18 décembre. Un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est Marianne Chevalier, qui, elle, est à cheval entre le dessin en art visuel, mais elle est aussi illustratrice. D'ailleurs, elle a été formée ici à l'Université Laval, même si elle venait de Montréal.
Elle a exposé aussi dernièrement.
Elle a exposé, oui. C'est un peu là, elle est de retour à Montréal, dans la région de Montréal. Et puis, elle a fait des résidences à l'étranger aussi. Je la connaissais juste par son site web. Puis là, c'est ça qui est le fun quand on est commissaire, là, quand on fait, entre guillemets,
on découvre,
ouais. On découvre du monde, puis on ose appeler quelqu'un. Hein. Puis elle m'a dit oui tout de suite. Puis elle travaille la photocopie. Elle a une photocopieuse chez elle, mais attends, une photocopieuse vintage. Elle ne veut pas la plus élaborée, la plus performante. Et elle a travaillé sur l'idée du vent à Québec. Alors, pourquoi on parle de Québec à ce moment-là? Parce que la carte du Canada inclut la carte du Québec. Donc, il y a toujours aussi des considérations de frontières, de territoire géopolitique. Et c'est le cas pour certains des artistes dans l'exposition, qui sont un peu plus engagés dans leur discours, qui ne sont pas dans une recherche formelle. Et elle, donc, elle est partie des feuilles, des feuilles des arbres, des feuilles de papier, et de l'idée du vent et des cheveux, etc. Donc, c'est comme entrelacé. Et c'est une belle pièce là, de 40 pouces par 40 pouces encadrée. Donc, une pièce en 2D. Puis, donc, c'est une des pièces en 2D. Sinon, Marie-Claude Boutillier, qui elle est une peintre, une qui est sortie de sa démarche, par exemple. Elle avait trois projets il y a 2 ans pour la première version de l'exposition. Marie-Claude Boutillier, donc peintre, elle a exposé un peu partout au Québec, au Musée du Québec, aussi dans l'exposition des femmes artistes l'an passé, oui. Au Musée national des beaux-arts du Québec. Et puis Marie-Claude, elle m'est arrivée avec trois projets, dont un qui était de réaliser avec chaque cahier, vous prenez un cahier, mettons la couverture rose, et là, elle a découpé le tout pour former un boîtier. Le boîtier est constitué de la couverture, et à l'intérieur des petites languettes. Donc c'est redondant, mais c'est un cahier sur le cahier avec le cahier, le matériau, ouais, c'est comme ça. Matériau qui est un support, mais aussi, et il n'y a pas d'altération sinon que des découpes. Alors elle, c'est une peintre de grand format. Donc si vous voulez voir son travail à elle, par exemple, vous allez voir marieclaudeboutillier.org. Mais j'ai beaucoup d'artistes de Québec parce que c'était ça un jeu cette fois-ci.
Mais oui. Puis bon, on en parlait tout à l'heure, les cahiers, on va pouvoir manipuler, on fait la bibliothèque. Et quand même quelque chose d'intéressant dans la relation qui va s'instaurer entre les œuvres et le spectateur aussi, parce que de base, bon, tout le monde, vous le disiez en début d'entre tu le disais en début d'entrevue, les cahiers Canada, on a tous travaillé avec ça, mais en même temps. Il y a quelque chose de ludique là, de manipuler les œuvres pour une fois.
Très fragile.
Transgresse le tabou. Dirais, là.
Oui, parce que ces cahiers-là, ils deviennent des livres d'artistes. Bon. Mais si on parle de catégorie, les livres d'artistes, il y en a qui ont, quand on parle de livres d'artistes, il y en a dans les collections de nos bibliothèques nationales, avec la belle reliure, le beau papier, etc. Là, on est justement dans le 3 fois rien. Vous savez, 4 cahiers Canada emballés dans un plastique transparent, c'est toujours 1,25 ou 1,29.
Mais ouais.
Là, l'enjeu, c'est ça, c'est que les gens passent, ce que je voulais, c'est qu'ils passent plus de temps dans la galerie.
Oui, qu'ils fassent un petit regard.
Un visiteur, le temps moyen d'un visiteur, je ne sais pas. Et même moi, qui est un amoureux des arts et supposément professionnel du milieu de l'art, il y a des expos où je passe moins de 5 minutes.
Ben ouais, c'est ça, on entre en fait une idée.
Alors là, ils vont avoir de la matière déjà, les gens, et puis ils vont pouvoir s'asseoir et passer un temps agréable, je l'espère. Et puis ça peut être dangereux quelquefois, j'espère qu'ils vont prendre attention aux pièces. Il y a des pièces qui sont découpées, qui sont quasiment de l'origami, comme Carl Trahan, par exemple. Mais il y a beaucoup de gens de Québec, là, j'arrive pas à les nommer, mais...
Mais il y en a Guillaume en fait Provo, quelques-uns.
OBV, par exemple, Julie Picard.
Paris Martin, Serge Murphy.
Réplique Franche, le collectif aussi, Denis Simard. Il y a des gens qu'on voit souvent, puis d'autres qu'on voit moins souvent. Mais c'est à découvrir.
Puis c'est à découvrir. De toute façon, j'imagine qu'avec une 60aine d'artistes comme ça, on va avoir droit à un vernissage, ma foi, fort festif.
J'espère. Ce vendredi. Surveillez, il y a 2 événements aussi au cours de l'exposition. On ne dira pas les dates, c'est indiqué sur le site web de l'Œil de Poisson, œildepoisson.com, et puis on vous retrouvera là.
Excellent. Ben, on se retrouve de toute façon vendredi. Dès 20h à l'Œil de Poisson pour le vernissage de Peut mieux faire, Emmanuel Gala. Merci beaucoup. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Catherine Boivin.
Le 25 novembre, participez à la Fête de la solidarité. Une soirée cabaret organisée par le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec au profit de la défense collective des droits. Venez déguster un souper chili préparé par le Café Babylone et danser avec nos invités, Zygmunt Bums, Flavia Nascimento, Stéphane Robitaille et Ja & I. Vendredi 25 novembre à partir de 17h30 au Centre Horizon. 801 4e rue dans Limoilou, entrée 10$. Informez-vous sur ssgpq.org, 418-529-4407. La Fête de la solidarité est rendue possible grâce à la Caisse d'économie solidaire, le Café Babylone, la Boîte à pain, Michel Yacoub, Agnès Maltais, la coopérative L'Amour, la Ville de Québec et CKRL.
Le gala de CKRL est de retour pour une 4e année et c'est maintenant le temps de voter.
Comment peut-on l'expliquer?
Votre participation compte pour 50% du résultat. Rendez-vous sur le site de CKRL et faites-nous connaître vos émissions favorites.
Un monde en apparence inaccessible.
Les gagnants seront dévoilés le 25 novembre prochain.
Qu'est-ce que cela signifie?
Vous avez jusqu'au 20 novembre pour voter. ckrl.qc.ca. Parce que c'est maintenant à votre tour de vous faire entendre.
Mon intelligence sur une...
Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science. Le tout vulgarisé est présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30. Seulement au 89.1.
This is tic-tac-toe.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts.
Try it now.
Il est 18h, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Et je suis rejointe à l'instant par Catherine Boivin. Bonjour Catherine.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Est-ce que vous m'entendez bien?
On t'entend très bien, très
excellent.
Bien. Cette semaine, tu as décidé de faire un petit tour dans les magazines d'art.
Voilà, c'est ça. Alors, n'ayant pas été vraiment dans le circuit de l'art physiquement, plus le théâtre là, cette semaine. Et en fait, je suis plus venue à ce qui vient à nous un peu d'une certaine manière. Et enfin, bon, tous les deux, on est un peu dans l'enseignement des arts. Et puis là, les revues, mais c'est toujours une façon de se ressourcer. Et puis, dans une perspective de l'enseignement de l'histoire de l'art, enfin... C'est un peu...
T'es une historienne d'art, là, disons-le. Là.
Ben, en tout cas, je suis une enseignante de l'histoire de l'art vraiment davantage. Et justement, là, j'arrive avec trois revues. Une complètement inusitée, c'est-à-dire c'est une revue française, EPS, et c'est Éducation physique et sport.
OK.
Et qu'est-ce qu'on vient faire avec ça? Mais c'est qu'il y a un numéro sur la danse et l'enseignement des arts plastiques pour des gens qui sont en danse. En fait, il y a toute une espèce de réflexion très pédagogique sur les enseignements des arts. Et donc, la réflexion ici, c'est en lien avec cet enseignement de l'histoire de l'art. C'est pour montrer comment on peut prendre des gens qui sont dans la pratique d'un art assez physique, comme la danse, ouais. Et de les confronter au multidisciplinaire. Alors oui, les arts plastiques par rapport à la sculpture, les poses. Ils ont même une activité avec Mondrian, le peintre abstrait, géométrique, qui amène une réflexion sur l'espace, mais d'un point de vue un peu plus intellectuel, là, bien sûr. Et ils ont tout un dossier qui amène les étudiants à travailler un projet, à réfléchir de façon multidisciplinaire. Et je me disais, c'est merveilleux parce qu'eux, ils disent que dans le fond, c'est une revue française. Ils sont dans l'enseignement des arts depuis quand même quasiment le primaire avec les enfants, ce qu'on fait peut-être un peu moins ici. Et moi, ça m'amenait à la question que je voudrais te poser, c'est que je trouve que c'est une réflexion fort intéressante et nous, on est appelés à travailler avec des gens qui ont à voir des cours d'histoire de l'art, mais qui sont peut-être en cirque ou en métier d'art ou qui sont peut-être en danse. En fait, pas dans notre zone, enfin, pas moi, mais c'est des choses auxquelles on peut être confronté. Et souvent, les gens sont assez cloisonnés et puis ils sont pas toujours ouverts, enfin. Mais de plus en plus, je pense qu'on l'est. La question que je voudrais te poser, parce que ça fait plus récemment que moi que tu as fini ton cours en histoire de l'art, c'est est-ce que tu penses qu'on est outillés, nous, les professeurs, pour de réfléchir multidisciplinaire? Est-ce que tu as eu à être confronté à la danse, au métier d'art lorsque tu as étudié?
Non, c'est ça le problème, en fait, avec l'enseignement de l'histoire de l'art, c'est qu'on reste beaucoup dans l'architecture, la peinture, la sculpture. C'est sûr que ça dépend des universités, bien entendu, mais si je pense ici à Laval, on est plus dans le traditionnel, un peu plus classique ou ancien, là.
Ben oui, c'est ça. Et puis moi, je pense qu'en ce moment, justement, on vit une grande époque multidisciplinaire. On est appelé dans toutes sortes de formes d'art, avec la vidéo, l'installation, le multimédia, à se poser ce genre de questions-là, beaucoup plus élargies. Puis je trouve que quand on arrive nous-mêmes dans la réalité, on n'est pas aussi outillés. Alors, un appel à renouveler un peu l'enseignement. Il faut le faire nous-mêmes aussi, mais en fait, ça amorçait ce genre de réflexion-là.
Ouvrir, c'est ça, les perspectives, les ponts.
Oui, et puis je m'adresse aussi aux gens qui sont en cirque et qui sont confrontés justement à cette réflexion-là de l'histoire des arts multidisciplinaires et d'y prendre un intérêt puisque c'est source d'inspiration. Donc, moi, ça me plaisait, ça m'inspirait beaucoup par rapport à cette question-là. Dans un autre ordre d'idées, donc, en fouinant dans les revues, je me suis laissée séduire par une revue un peu classique, une revue de France, Connaissance des arts,
oui.
Qui souvent font de très beaux dossiers lorsqu'il y a une exposition majeure en France. Souvent, Connaissance des arts va faire un hors-série spécial. Et là, j'ai tout simplement acheté le numéro d'octobre dans lequel, en fait, parce que justement, il posait une autre question, c'était est-ce que le street art a sa place? Street art avec ses bien dans la sirène. Donc, est-ce que le street art a sa place dans les musées? C'est donc l'espèce de question qui tue.
Est-ce que c'est pas un non-sens, en fait, le street art dans les musées?
Exactement, parce que ça prend tout son sens dans la rue et puis être en marge. Et puis, c'est une question, moi, que les étudiants me posent. Et à savoir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça a sa place? Est-ce qu'on doit institutionnaliser les tags? Et les artistes eux-mêmes se jouent le jeu, là, parce qu'ils font du outdoors et du indoors.
Mais
et ils vendent à très fort prix. Alors, j'entendais parler Raymond, comme
ouais, quoi,
les street artists sont vraiment embarqués dans le mouvement occupons la ville, là, occupons Wall Street, et puis mais eux-mêmes sont entre deux chaises par rapport à leur position, par rapport au capitalisme et tout ça. Alors, je poserais la question, est-ce que toi, tu penses que le street art a sa place dans le musée?
Mon Dieu, c'est une question, c'est vraiment une question à laquelle je ne pourrais pas répondre maintenant. Je pense que ça demande la réflexion, mais par contre, j'ai déjà discuté avec un artiste qui faisait du graffiti, puis il disait, tu sais, travailler légalement versus travailler illégalement, c'est pas du tout la même chose, tu sais. Il disait, quand on fait, quand on a une commande, par exemple, de faire une murale, il dit, c'est de la murale qu'on fait, c'est pas du graffiti. Le graffiti a sa place dans l'illégalité. Donc, peut-être que, je sais pas qu'est-ce qu'il en pense, en fait, les artistes du street art, mais j'aurais tendance à aller un peu dans ce sens-là. C'est vrai, peut-être deux pratiques différentes, parce que l'art de la rue qui n'est plus dans la rue...
C'est plus de l'art de la rue.
Voilà.
Mais c'est un peu ce qu'il disait. Il dit, quand les artistes s'expriment en galerie, c'est de l'art contemporain, et quand ils sont dans les lieux illicites, enfin, des endroits... Donc, un peu plus interdit, et bon, donc c'est du street art. Et c'est drôle parce que, justement, la position n'est pas tranchée, parce qu'il est rentré dans les musées. Il y a eu des grandes rétrospectives à la Tate Modern, il y a 2 ans à peu près, et une autre à San Francisco, là, une grosse rétrospective, puis ça pose tout un problème de comment faire rentrer ça, comment institutionnaliser cela. Et eux, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ne prennent pas position clairement, dans le sens qu'ils ont... une personne responsable de la galerie, d'une galerie d'art qui dit oui, ça a sa place, et l'autre personne, non, ça n'a pas sa place. Alors lui, il a rendu que... Ils disent que dans le fond, c'est un mouvement, même peut-être aussi important, peut-être un des plus importants depuis le pop art, dans la mesure où il n'est pas élitiste, il s'adresse à tout le monde. Puis je dirais que par les étudiants, on le voit, il y a un intérêt là, vraiment pour ces différentes formes d'art-là, mais ça, en tout cas, ça nous questionne un peu par rapport à ça. Alors, encore une fois, où situer l'histoire de l'art dans tout ça?
C'est un peu le même type de questionnement, comme peut-on acheter ou se procurer une performance, par exemple. Je sais que dans les derniers mois, dans les dernières années, il y avait justement un marché de l'art qui commençait à s'intéresser à l'art de la performance, donc comment on devient propriétaire d'une performance, etc. Je trouve que c'est des questions...
Oui, ou des droits d'auteur,
ouais,
sur
exactement.
L'idée de, et puis...
Exactement, donc on est sur des frontières, là, sur des lignes minces sur lesquelles on ne peut pas tant trancher.
Non, qui amène tout un débat, en fait, et une réflexion, puis je n'ai pas l'intention non plus de répondre à la question ici. C'est plus, moi, je veux juste un peu ouvrir le débat, et puis...
Ben oui, puis si vous avez envie de commenter le débat, vous pouvez aller sur le site laérospatiale.wordpress.com, il y a place à des commentaires,
excellent,
puis on ouvrira le débat sur le site Internet.
D'accord. Et puis, ben peut-être... Moi, ce que je voulais simplement mentionner, c'est que je suis comme un peu ambivalente par rapport aux revues d'art, à savoir Connaissance des arts, c'est comme du bonbon, c'est comme un magazine de qui fait quoi, c'est un peu un fast-food dans la mesure où c'est des informations très, très variées sur de l'art de, justement, en fait, on est au courant de ce qui se passe dans les grands musées en France, mais aussi le marché de l'art est commenté, les différentes galeries, et on peut avoir des œuvres, en fait, on a des articles de toutes les époques. Là, c'est pas que du contemporain, et bon, dans une perspective historique, j'aime bien. Peut-être faire part de quelque chose que j'ai appris dans Connaissance des arts toujours, un parallèle qui a été fait à une exposition sur Giacometti, le sculpteur moderne, en parallèle avec les Étrusques.
Oh.
Est-ce que ça te surprend? Espèce de rencontre entre le monde antique. Étrusques, pour situer là, qui sont un peu dans un art proche de ce que les Romains faisaient ou les Grecs, mais avec une particularité très, très nette là aussi au niveau de leur sculpture, leur vase, leur dessin.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait comme rapprochement? Parce que j'avoue moins connaître l'art des Étrusques.
Bien, écoute, moi, j'étais justement très, très curieuse de savoir. Mais là, je me dis, bon, Giacometti, avec un nom italien, est-ce que, bon, il semblerait qu'il était vraiment un admirateur des Étrusques. Mais on apprend carrément que la source d'inspiration pour ces figures longilignes, filiformes, ces sculptures magnifiques, très existentielles, sont inspirés d'une sculpture en particulier qui s'appelle, L'ombre du soir, qui est une espèce de figure humaine très, très, très étirée à la manière de Giacometti. Et donc, c'est comme une révélation. C'est un peu comme si on pensait que son idée géniale, finalement, elle a une source. Et puis, ça n'a jamais été publicisé, mais en fait, je pense qu'il y aurait
trop à faire. Un regard nouveau, là, quand même.
Tout à fait. Et puis, là, il n'y a pas beaucoup de temps pour en parler, mais peut-être une prochaine fois, je vais rentrer dans Espace Culture, qui nous fait, parce qu'on a des superbes revues au Québec.
Ben oui, on en a beaucoup.
Oui, tout à fait. Alors, c'était Espace Culture, parce que, encore dans ces rencontres un peu inusitées, un numéro spécial sur l'utopie et l'espace utopique, et je vous en parlerai, mais c'est Claudie Gagnon et Marcel Ferron, deux artistes féminines dans deux époques différentes, mais qui travaillent toutes les deux le verre. Et donc, j'ai bien aimé le rapprochement, mais... Je vous en reparle.
Ben oui, tu nous tends, hein? Je dis souvent cette expression-là, tendre une carotte, mais tu nous en tends une pour ta prochaine chronique. On se revoit dans environ un mois.
Absolument, juste avant Noël.
Ben oui, c'est vrai, juste avant Noël, mon Dieu, ça s'en vient.
Cadeau artistique pour Noël, ça pourrait être ma
chronique. Oui, j'ai l'intention de préparer également une émission spéciale sur les publications ici à Québec, donc pour offrir un cadeau de Noël, des publications des centres d'artistes, des livres d'art, etc.
Il y aura les salons des métiers d'art, et c'est vraiment l'occasion d'encourager nos artistes du coin.
Ben Catherine, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
On s'en va en pause audio, on écoute Hip Org, et ensuite on discute avec Sébastien Hudon.
It.
Toujours sur les ondes de CKRL à l'aérospatiale, on vient d'entendre Éporgue, une suggestion de Simon Roy, c'est tiré de l'album Point d'orgue de Galerie Stratique. Si vous êtes intéressé par cet artiste, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de l'étiquette NoType. Également, vous pouvez aller trouver toutes les références sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. On se dirige maintenant vers la côte d'Abraham, puisque la fin de semaine dernière débutait une nouvelle exposition à la bande vidéo. Pour en parler avec nous, Sébastien Hudon. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Cette semaine, en fait, jusqu'au 10 décembre, vous présentez l'exposition Cars Cone de Kay Stalin, une artiste new-yorkaise.
Oui.
Vous présentez son travail. Vous lui avez également demandé de faire une résidence. Qu'est-ce qui vous a accroché dans le travail de Kay Stalin?
En fait, j'étais pas là au moment où ça a été programmé. C'était
moi. Vous, en fait, à la bande vidéo.
J'imagine que c'était un des dossiers qui était très intéressant parmi ceux qui avaient été soumis, notamment parce que son utilisation de la projection et de l'installation, donc de l'utilisation de la vidéo comme installation, est aussi un axe qu'on veut développer. Donc vraiment cibler la vidéo d'art et l'installation donc vidéo fait partie de cette tangente là qu'on veut
mettre de l'avant,
oui, parce que il faut aussi définir quel est notre mandat, parce qu'il y a beaucoup de centres à Québec qui font cinéma, mais aussi vidéo. Donc, il faut voir quelle est la tangente à prendre pour mieux se définir nous-mêmes. Donc,
ouais. Puis le projet Cars Cone, ça résonne un travail qui avait été fait en 2009, je crois, à New York. Mm-hmm. C'est quand même assez particulier là, quand on entre dans la salle. Il y a un grand miroir avec la peinture dessus sur laquelle on projette. Il y a des reflets de miroir aussi sur les murs.
Oui, et c'est ça. On est plongé à un moment précis dans un carrefour giratoire. Et l'idée de l'artiste, en fait, c'est de démontrer comment notre perception fonctionne avec non seulement notre mémoire, mais le souvenir qu'on a des choses et comment finalement le cerveau parfois travaille à notre place. Et c'est de rendre visible aussi des éléments qui le serait moins. Donc, dans ce cas-ci, un cône de circulation qui se retrouve reflété un peu partout dans la pièce, mais aussi qui change d'échelle et qui nous oblige à reconstruire la scène intellectuellement ou mentalement, si on veut, pour avoir une idée d'ensemble.
Oui, puis ça nous oblige à se déplacer là, dans la salle, parce que moi, j'ai découvert quelques endroits où si je me plaçais là, je voyais le cône carrément sur la projection, alors qu'habituellement, il était projeté carrément sur les autres murs. Ouais. Donc, ça implique quand même du mouvement, là.
Oui, puis à l'origine, il devait seulement y avoir une projection, mais comme tous les projets, le projet a évolué vu l'espace qu'on avait à la bande vidéo et les moyens. On a pu passer à 3 projecteurs au lieu d'un seul, donc ça accentue l'effet aussi que l'artiste voulait donner, puis c'est elle qui est arrivée avec cette idée-là. Mon Dieu, on devrait en mettre plusieurs, puis qui a travaillé avec John Blouin, notre directeur technique, à faire évoluer le projet.
Puis c'est intéressant justement parce que, ça projette sur le miroir, mais il y a de la lumière aussi qui est projetée où il n'y a pas de peinture, il n'y a rien, donc le miroir lui-même fait des reflets sur les murs, puis on voit passer. Des fois, il y a une voiture qu'on voit, on la voit passer par le reflet du miroir sur le mur. Donc, une espèce de jeu de recomposer l'image aussi là, qui devient un peu éclatée.
Oui, tout à fait. C'est exactement le propos de l'exposition. Puis, le propos de l'artiste aussi, donc de montrer comment finalement, dans le quotidien, on fait des actes un peu automatiques, on reprend la routine de passer à chaque coin, à un coin de rue, à chaque matin, toujours le même coin de rue, puis finalement, les objets qui nous entourent deviennent tellement familiers qu'on les voit plus.
Ben ouais, c'est ça.
Puis c'est vraiment une façon de rendre ça visible.
de nous obliger à regarder ce qui est normalement complètement, je veux dire, qu'on voit, quand on entend, on fait de la sélection, on fait un tri, puis là, ben, c'est de mettre l'accent sur la chose qu'on...
C'est ça, exactement.
Et en même temps, ben, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette exposition-là, c'est l'idée de projeter sur le miroir, mais de peindre par-dessus le miroir. Ça ajoute, je trouve, une dimension presque, ben, pas presque, mais ça ajoute une dimension picturale à la vidéo. Ça fait des effets de texture. On sent que le haut du miroir est pas plus en longueur, le sol différemment, là, c'est particulier quand même.
Oui, oui, tout à fait. Puis, en fait, comme l'artiste me l'expliquait, elle, sa formation de base et son média de base, c'est quand même le dessin. Et l'exploration en vidéo est venue, s'est imposée de lui-même. Quand on regarde l'installation, on voit entre autres autour du cône un pointillé qui rappelle le pointillé des
feuilles à découper. Là.
Et c'est ça, donc ce travail avec le pictogramme-là aussi, elle l'avait déjà inclus dans des projets antérieurs où là, il y avait beaucoup plus du dessin que de la vidéo, mais là, elle expérimente en vidéo aussi là, depuis presque 2 ou 3 ans.
Et là, elle travaille à un projet de résidence en ce moment à l'Aide de Poisson. Peux-tu nous en parler un petit peu?
Oui, ben c'est un peu...
À l'Aide de Poisson, la bande vidéo, excuse-moi.
Et c'est un projet où un danseur, elle est danseuse de formation aussi. Et elle va faire intervenir Karine Ledoyen, une autre danseuse.
Une chorégraphe quand même bien connue à Québec.
Oui, donc danse cas par cas. Et il va y avoir comme une superposition d'un dessin au mouvement des danseuses, de sorte justement à rendre visible le mouvement, mais aussi c'est encore cette réflexion-là sur l'attente disons la complétion d'une scène par le cerveau et par la ce qu'on fait avec la perception, donc.
Donc, c'est à suivre. Est-ce que ce sera présenté sur Internet, sur le site de la bande vidéo par la suite? Est-ce que vous allez faire quelque chose avec ça?
Il va y avoir à la fin de la saison prochaine, au mois de juin, un dévoilement des travaux de résidence qui n'auront pas été présenté. Mais il est possible que ce travail-là finisse par être diffusé sur la médiathèque. Donc, la médiathèque de la bande vidéo qui est ouverte depuis pas tellement longtemps.
Excellent. Bien, Sébastien Hudon, directeur artistique de la bande vidéo, merci beaucoup.
Un plaisir.
Donc, l'exposition Cars Cone est présentée jusqu'au 10 décembre. On s'en va en pause audio. On écoute Point d'orgue 3 sur les ondes de CKRL. Thank you. Alors voilà, c'était la dernière pièce de l'émission. C'était Point d'orgue 3. Je répète, c'était Galerie Stratique avec Point d'orgue. C'est le nom de l'album, un artiste québécois. Vous pouvez trouver gratuitement son matériel sur le site de l'étiquette No Type. Également, les liens seront mis sur le site de l'aérospatiale. Très, très, très bientôt, l'aérospatiale.wordpress.com. Et là, vous voyez, je commence à accélérer la vitesse à laquelle je parle. Il y a tellement d'événements cette semaine. C'est assez incroyable. Je vous dis qu'on est dans une semaine de flottement entre plusieurs expositions. Bien, il y a notamment beaucoup de vernissages. Mais ce soir, à 20h, si ça vous intéresse, une conférence sur la mosaïque contemporaine qui est présentée par Jean-Anne Dabb dans le cadre de l'exposition En avant la mosaïque qui est présentée à la Villa Bagatelle. Et jeudi, vernissage de l'exposition de Richard Mille à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. C'est à compter de 17h. Également, double exposition pour Richard Mille, puisqu'il expose aussi à compter ce vendredi à la galerie Le 36, dont le vernissage aura lieu à 19h. Parmi la série des vernissages de ce vendredi, celui de Carla Vigna à l'établi. Il y a également vernissage au lieu. Il y a vernissage à l'œil de poisson pour Peu mieux faire, dont on a parlé avec Emmanuel Galland un peu plus tôt dans l'émission. Vernissage à vue pour l'exposition sur son trentenaire, donc 30 frimaires. Samedi, vernissage de Denis Pellerin chez La Certe, également à 20h, un techno-cabaret littéraire qui s'appelle Liberté au Musée de la Civilisation. Et dimanche, vernissage à l'exposition René de Rouen à la Galerie Michel Guimond. Sur ce, je vous laisse entre très bonnes mains. Je vous laisse avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique. Bonne semaine à tous!